Bonjour à tous, je n'ai pas salué. Soyez les bienvenus. Ce matin, donc, ça sera un peu un message particulier. D'une part, ça sera un peu la fin des messages que j'ai apportés les dernières fois. Et puis, il y aura une deuxième partie qui sera un témoignage, quelques étapes de ma vie, où voilà, je vous expliquerai un peu ce que j'ai vécu en illustrant aussi un petit peu par rapport au message avec ces différentes étapes. Donc ce sera aussi l'occasion d'apprendre à me connaître un petit peu plus. On ne se connaît pas encore beaucoup. Et voilà. Alors donc, on a vu les lamentations, c'était le premier message. Il était nécessaire que Dieu les accueillait, comme il a accueilli beaucoup de lamentations dans la Bible. Hein. Les psaumes sont remplis de lamentations. Il y a même un livre des lamentations, on a lu un passage ensemble aussi. On a parlé du silence. Après les paroles de lamentations, on arrive aussi à un moment donné à... J'ai envie de dire, quand tout est sorti un peu, on se met en silence pour qu'il y ait de la prélude à l'écoute, pour pouvoir aussi ensuite écouter ce que Dieu veut nous dire. Et nous avions pris l'exemple d'Élie, Élie dans sa grotte, qui a découvert ou redécouvert Dieu, mais il a dû se rendre compte ou bien réaliser que Dieu était dans un murmure doux et léger. Il a dû faire ce silence aussi, et là Dieu lui a parlé. Et la suite logique finalement est... Peut-être c'est la tendance qu'on a des fois tout de suite commencer par là, c'est d'agir, de faire tout pour que notre vie soit transformée, mais ça vient à la fin, c'est comme une conséquence des autres choses. Si on n'a pas pu un peu se lamenter, dire aussi à Dieu ce qu'on vivait, si on n'a pas pu faire silence, si on n'a pas vraiment pu ouvrir les oreilles à sa voix, il y a un risque que notre action puisse être soit un peu, soit on s'épuise peut-être dans l'action, ou soit on fait peut-être même des choses qui sont... Peut-être à côté, que Dieu ne nous demande pas. J'ai parfois l'impression que Dieu nous demande des choses assez spécifiques à chacun. Il ne nous demande pas forcément de faire 1000 choses, mais des choses qu'il nous demande spécifiques sur la base de ce qu'on a entendu de lui. Donc c'est la suite logique, c'est l'action, mais aussi la transformation de tout notre être pour que, au final, ce chemin sur lequel on vit débouche sur la connaissance de la vérité de Jésus et que cela nous rende libres. C'était aussi la conclusion du dernier message. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Christine nous l'a aussi rappelé dimanche passé, que c'est vraiment l'objectif de ce chemin, c'est de connaître Jésus toujours plus et de pouvoir vivre une vie de liberté. Voilà, l'écoute de Dieu. Alors pourquoi on a l'écoute de Dieu? Alors sur la base de ma compréhension aussi de la Bible, comme je la comprends, si Dieu nous invite à l'écouter, eh bien c'est... D'une part, pour être transformé à l'image de Christ, il change nos cœurs. Et il y a ce verset qui nous dit, nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Et le deuxième élément, pour agir conformément à sa volonté. Et là, un verset nous parle ça assez clairement, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est dans Hébreux 13, verset 21. Et un deuxième verset qui est aussi magnifique dans Notre Père, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La volonté de Dieu, j'ai des fois l'impression qu'elle est déjà faite au ciel, mais elle doit se faire aussi sur terre. Comme elle est au ciel, qui doit avoir cette interaction, sa volonté s'établisse sur terre, et puis elle s'établit par nos vies, par notre action ici-bas. À l'écoute dans la Bible, comme introduction un peu avant d'apporter mon témoignage, on parle beaucoup de l'écoute dans la Bible. En faisant une recherche avec les moteurs de recherche qu'on a maintenant, j'ai mis le mot « écoute » dans, c'était pas Google, mais c'était une Bible que j'avais, et j'ai trouvé 471 fois le mot « écoute », alors sous toutes ses formes, dont 394 fois dans l'Ancien Testament et 77 dans le Nouveau Testament. Et vous connaissez à ces versets où souvent l'Éternel dit à Israël, je prends un exemple, quand Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit « Écoute Israël, les prescriptions et les règles que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » Ça c'est dans Deutéronome 5, verset 1, et ce verset est suivi après des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Ou bien un autre passage, « Écoute Israël », il revient, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc c'est pour pouvoir aussi appliquer, Jésus reprend ce commandement qui dit que c'est le plus grand commandement. Dieu nous rappelle qu'il faut écouter ça, qu'il est le seul Dieu et que c'est lui qui souhaite que nous l'aimions de tout notre cœur. Dans le Nouveau Testament aussi, Jésus reprend ce passage, il dit, Jésus répondit à des pharisiens, non, à une personne qui venait lui demander qui était le plus grand commandement. Et il dit, le premier, écoute Israël, il reprend le verset, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. J'ai pris ce verset dans Marc 12, 28 à 31. Il y a aussi le passage où il est parlé de Jésus qui est notre bon berger. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dans l'Apocalypse, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est repris plusieurs fois quand Jean a cette révélation et qui a ces lettres qui sont adressées à ces différentes églises dans l'Apocalypse. Et Jésus parle aussi plutôt d'utiliser le verbe « entendre » Jésus. À la fin de ses paraboles, il dit souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je me suis posé la question, entendre, écouter, c'est quoi là un peu la différence? Pourquoi Jésus l'écoute? Il utilise plutôt le mot entendre. Et dans l'Ancien Testament, on parle plutôt de l'Éternel qui dit à son peuple d'écouter. Alors personnellement, un petit peu inspiré aussi sur ce que dit le dictionnaire, entendre, pour moi, c'est un peu plus, voilà, on entend, c'est notre ouïe, on entend un bruit, on entend quelque chose. Par contre, écouter, ça va un peu plus dans... ce qui est compris, ce qui est analysé, intégré par nos systèmes cognitifs, et ça demande comme une attention particulière d'écouter quelque chose. En hébreu, par contre, ou même en grec, les mots qui sont utilisés ici, ça peut signifier aussi bien entendre que écouter. Donc c'est assez semblable. Tantôt, on peut utiliser le mot entendre, donc c'est assez... Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi lié au mot obéir. Le même mot, shama en hébreu, veut aussi bien dire entendre, écouter, obéir, voire aussi apprendre ou comprendre. Donc voilà, cette multitude de significations rend aussi la traduction souvent difficile de la Bible, pas que pour ce mot, mais pour d'autres aussi. Et puis, voilà, j'ai pris la traduction second 21, on utilise 525 fois le mot entendre et 471 le mot écouter. Donc voilà, c'est utilisé, je ne veux pas dire de manière équivalente, mais assez, autant bien l'un que l'autre. Et écouter, lié à obéir, c'est aussi intéressant. Nous souhaitons aussi obéir à Dieu, nous souhaitons obéir. Et puis, si on écoute, il y a l'obéissance qui est derrière. La racine latine d'obéir est de la même famille que ouïr, obéir, ouïr. Donc, c'est aussi proche au niveau de la racine latine. Et là, une petite parenthèse, le premier chef que j'avais quand je travaillais au service d'agriculture, il me disait toujours, si tu demandes quelque chose à quelqu'un, donc si tu es prêt à l'écouter, tu dois aussi lui obéir après. Donc il m'a dit, si tu veux faire comme tu veux, il faut mieux pas demander. Il y avait un peu quelque chose de juste, des fois. Si on demande quelqu'un, finalement, on est prêt à l'entendre, et puis finalement, on est peut-être moins libre de faire comme on veut, après, d'une certaine manière. Voilà, c'était un exemple que j'ai vécu. Donc voilà, écouter pour agir et se laisser transformer. Dans le dernier message, donc, on a vu Élie qui a entendu la voix de Dieu, qui s'est présenté à lui à travers un doux murmure, et il a dû bien écouter pour entendre la voix de Dieu. C'est à peine audible, un doux murmure. Et cette écoute a été précédée de choix et de non-choix, ou de choix relatifs, de choix conduits par Dieu, qu'on pourrait appeler des choix providentiels, et de choix apparemment personnels qu'il a pris, Élie, sans grande concertation avec Dieu. Mais au final, on lit que cette voix de Dieu a eu un impact sur sa vie au niveau de sa connaissance de Dieu et aussi au niveau de sa mission prochaine qu'il a reçue de lui. Donc l'écoute nous invite donc à l'obéissance volontaire, donc ça implique des choix finalement, mais aussi à faire face à des circonstances dans la vie, parfois difficiles, qu'on ne choisit pas, ou des choix qui sont relatifs, ou des circonstances qui sont comme ça. Et puis ça nous aide aussi d'écouter Dieu pour faire face à ces situations. Je vais vous donner donc mon témoignage, ce ne sera pas un témoignage complet, mais quelques éléments, comment Dieu a interagi avec moi. Et j'aimerais d'emblée dire, c'est mon témoignage, vous avez chacun votre témoignage, vous avez chacun votre vie, vous avez chacun votre manière spécifique d'écouter Dieu dans les partages. Non, c'était, je crois, Christine, hein, dimanche passé, qui dit que Dieu lui parle quand elle fait la vaisselle. Donc voilà, ça c'est un lieu spécifique. Dieu nous parle. Moi, quand je fais du jogging assez régulièrement, et de plus en plus, Dieu me parle là. Donc c'est comme si j'avais une disponibilité en faisant bouger mon corps à entendre aussi ce que Dieu veut me dire. Donc chacun, certains dans la voiture, certains c'est par des rêves, certains c'est par simplement des pensées qui viennent très fortes sur le cœur. Puis dans le groupe qu'on avait, je repensais à Roger, là, dimanche passé, on avait eu des groupes, et puis on parlait un peu comment la parole de Dieu s'intègre. Puis Roger, après ce qu'il a dit, chacun a une vie différente, chacun a quelque chose de spécifique. C'était tout à fait juste. On n'a pas de la parole comme elle s'incarne finalement en chacun de nous. C'est une histoire personnelle, j'ai envie de dire. C'est une histoire entre Dieu et nous. Alors voilà mon témoignage, et je l'ai intitulé le titre « Choix » ou « Choix relatif ». Ou des non-choix sur mon chemin de vie à l'écoute de Dieu. Et puis j'ai sélectionné 7 étapes, donc ce n'est pas toutes les étapes, mais quelques étapes pour vous dire un peu voilà, ce que j'ai vécu aussi avec Dieu. Donc voilà, je suis né il y a quelques années, en 1970, dans une famille évangélique, donc chrétienne évangélique. Et là, j'ai mis que c'était un non-choix. Finalement, on est dans une famille, hein, on dit que les enfants ne choisissent pas leur famille. J'ai eu cette réalité, je suis né dans une famille qui était chrétienne, qui était croyante, et puis qui nous ont aussi partagé la Bible. J'ai suivi aussi l'école du dimanche, le catéchisme. Durant ce temps, c'était aussi, on parlait des lamentations. Ça a aussi été des temps où j'ai eu des lamentations claires dans mon enfance ou dans ma jeunesse. Parfois liées, des frustrations liées aussi à mon éducation, par exemple. Mes parents avaient une éducation assez clair. Une frustration, aujourd'hui je l'ai relativisée, mais j'aurais aimé faire du foot. Hein, on parle de l'UEFA actuellement. J'aurais aimé faire du foot dans un club. Mais la réponse était non, Claire, tu ne feras pas du foot. Vous pouvez vous imaginer pourquoi. Parce que ça entrait en conflit avec le culte du dimanche matin. Souvent les matchs de foot étaient le dimanche matin. Donc c'était une éducation, voilà, on mettait des... Et puis j'ai jamais pu faire de foot dans un club. Alors c'était un peu une frustration. Aujourd'hui, je la relativise beaucoup, mais sur le moment, tous mes copains faisaient, et moi je ne pouvais pas, je devais aussi vivre avec ça, sans forcément toujours bien le comprendre non plus. J'ai aussi une maman qui avait des périodes de haut et de bas, elle a été dépressive aussi plusieurs fois, un peu de manière cyclique, des périodes où elle allait bien, des périodes où elle était aussi dépressive. J'ai aussi vécu avec une maman qui avait cette fragilité-là. J'ai aussi une difficulté à commencer l'école, ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi, d'aller à l'école, l'école enfantine. J'avais à l'époque commencé assez tard, à 6 ans, c'était pas déjà 3-4 ans. Donc j'étais un enfant qui aimait bien être dehors, jouer, avoir ma liberté, entre guillemets. Et puis là, tout à coup, on devait me dire d'aller m'enfermer dans une école. Ça a été assez difficile. On a presque dû m'envoyer de force à l'école. Le premier jour, maman devait rester avec moi pour pas que je me sauve, donc c'était vraiment quelque chose d'assez assez difficile. Et puis ma voisine, elle rigolait toujours. Après, elle m'a dit, mais tu ne pouvais pas à l'école. Puis après, tu as fait des études. Donc, tu as tout à coup quand même pu accepter cette contrainte d'être sur des bancs d'école. Voilà un peu une famille de 4 enfants. Donc, je suis de 5 enfants, pardon. Le quatrième d'une fratrie de 5 enfants. Donc, j'ai un demi-frère. Mon frère aîné est un demi-frère. Mon papa s'est marié 2 fois. Il a eu un premier mariage où il a eu mon frère aîné, Philippe. Et puis, un drame s'est produit après, à l'accouchement du deuxième enfant. Son épouse et l'enfant sont décédés. Donc, ça a été vraiment, je pense, un traumatisme. Il n'a pas beaucoup parlé, mon papa, avec nous. Mais après, il s'est remarié et il a eu 4 enfants. Et moi, je suis donc le troisième de la deuxième fratrie, ou le quatrième, si on prend mon demi-frère, qui était vraiment aussi pour nous comme un frère et un grand frère. Une décision ensuite, une deuxième étape, un peu la décision de suivre Jésus. Et aussi d'être baptisé. Alors ça, c'était, je peux dire, un choix que j'ai fait personnel, et c'était bien important que je le fasse. C'était en 1986, à l'âge de 16 ans, ce qui a aussi ensuite débouché sur des engagements que j'ai pris dans l'église, dans les groupes de jeunes. Et là, j'ai suivi c'est aussi un peu une tradition familiale, un cours de Unterweisungskurs en allemand. C'était un cours d'instruction biblique intensif sur 2 semaines, dans une église en Suisse allemande, près de Thun. Et puis là, on a eu toutes les bases de la vie chrétienne. Et on a aussi la possibilité après de répondre à l'appel de Dieu, de se convertir aussi là. Ce que j'ai fait, j'ai aussi eu le plaisir et la joie d'être baptisé durant ce camp, ou durant ces 2 semaines. Et puis aussi le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue qui l'accompagnait, un temps merveilleux. Je me rappelle aussi une prophétie qui avait été donnée à ce moment-là. Il y avait une dame dans cette église, une grande dame, là, bien sa place. Et puis elle donnait comme ça des prophéties à ces jeunes qui se faisaient baptiser. C'était vraiment touchant, quoi. Et puis elle a aussi donné une prophétie pour moi qui m'a accompagné toute ma vie. Elle voyait aussi le Seigneur. J'étais comme ça, devant, je marchais, puis que je, tout à coup j'arrivais devant un rocher. J'étais un peu bloqué là. Puis que le Seigneur me disait, mais lève la tête, je vais t'aider à passer par-dessus. Et puis que c'était un peu quelque chose qui allait m'accompagner, donc face aux obstacles de la vie, de ne pas rester bloqué, mais de garder cette foi et cette confiance qu'il y a Dieu qui est au-dessus, qui m'aide aussi à traverser les obstacles qui sont aussi venus dans ma vie par la suite. Donc ça a aussi débouché ce choix de suivre Dieu, de me consacrer à lui, ça a débouché sur des actions concrètes aussi après au niveau de mes engagements dans l'église, dans la louange en particulier, dans le groupe d'ados. On avait, quand j'étais jeune, un groupe d'ados pour les 13 à 14-15 ans. On avait un jeune, un plus âgé que nous, qui avait appris ça à jeûner sans mission, des mimes ou des pantomimes, hein, c'est avec de la musique. Et on avait monté une équipe là, on était 4-5 ados un peu du même âge et ça nous avait vraiment boosté. De faire des mimes, on allait faire des présentations avec un groupe de musique aussi, on le faisait des fois avant, on faisait des mimes ou entre deux chants. C'était aussi très, très chouette et très béni. Et aussi après, je me suis engagé dans le groupe de jeunes, on avait un groupe de jeunes interconfessionnels, grandi dans le Jura, donc à Delémont, grandi dans la région du Jura qui était une région avec beaucoup d'églises évangéliques, mais peut-être un peu trop, assez divisé finalement. Chacun avait monté sa petite église, et puis on ne se causait pas tellement entre églises, donc c'était plutôt un peu un lieu. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, évangéliques hein, en particulier, mais c'est assez divisé. Du coup, il y avait un groupe de jeunes qui s'était mis en place, déjà avec mes frères aînés, un groupe interconfessionnel pour un peu donner une place à ces jeunes qui ne se retrouvaient pas trop dans leur église, parce que soit c'était trop petit, soit ben voilà, ils ne se sentaient pas à l'aise. Et puis c'était un groupe de jeunes interconfessionnels qui s'était créé, et puis les jeunes restaient dans leur église, d'autres moins, hein, c'est toujours un peu le risque des fois qu'ils se retrouvent entre jeunes et puis ils ne suivent plus tellement l'église. Mais la plupart aussi, moi, on continuait de fréquenter une église, mais ce groupe de jeunes avait aussi une certaine, pas dire une reconnaissance, mais était aussi apprécié par les églises finalement qui arrivaient des fois pas ou difficilement savoir aussi comment apporter ce qu'il faut aux jeunes. La louange, aussi la conduite de la louange, c'était un peu mon premier ministère, jouant le piano. Et là, peut-être juste un tout petit peu retour, jouer le piano et pourquoi j'ai commencé le piano. C'est aussi un peu une règle familiale qu'on disait, les enfants jouent le piano chez nous. C'était pas comme nous on a un peu fait, tu essayes, un peu le violon, un peu la batterie, puis à la fin tu choisis. C'était un peu l'instrument de base, alors c'est pas tout faux. Hein. L'instrument de base, si tu sais jouer le piano, tu sais finalement assez facilement switcher sur la guitare ou sur autre chose. Alors bon, moi j'ai aussi fait du piano, mais je crois que je suis un peu le seul sur les 5 qui me suis approprié l'instrument, entre guillemets, qui en a aussi fait quelque chose. Dans la louange, après les autres, je crois qu'il n'y en a plus un qui joue aujourd'hui ou quasiment plus. Donc voilà, ça a été une bénédiction pour moi, un peu cette contrainte, mais je l'ai pris comme une bénédiction. Et j'en ai, à tel point, à un moment donné, dans le groupe de jeunes, je commençais un peu de jouer le piano aussi là. Puis une fois, il y a le responsable de la louange du groupe de jeunes. C'était un peu, c'était pas forcément un mentorat qui a pris des mois pour me former à devenir conducteur de louange. Un jour, il m'a dit, aujourd'hui, c'est toi qui joues le piano, il m'a dit. Je sais que ce morceau-là, tu le sais bien. C'est toi qui te mets au piano et tu joues. Mais il me l'a dit, j'ai envie que tu t'y mettes. Alors j'ai dit, ok, j'y vais, ça m'a fait plaisir. Puis c'était un peu mon début aussi. Après, on a développé ça. J'étais dans une église, il n'y avait pas de groupe louange. Donc on a mis en place un groupe louange. C'était encore un peu le style ancienne église, entre guillemets ancienne, hein, c'est pas négatif, mais il y avait un pianiste et puis des chants, mais il n'y avait pas de groupe non plus avec des musiciens. Il n'y a pas non plus un peu de conduite de la louange. Et on a mis ça en place aussi dans une église. À l'époque, c'était à Moutier, dans le Jura bernois, qui sera bientôt jurassien. Voilà. 1989, choix du métier. Et le choix du métier, donc, j'ai envie de dire mon premier métier maintenant, mais j'ai fait ingénieur agronome au Poly à Zurich. Et ce choix-là, je l'ai vraiment aussi pris comme un vrai choix. Ce n'était pas un choix par défaut ou un choix, on m'a dit tu devrais parce que ton père, etc. Des fois, c'est un peu des choix orientés, hein, ou bien on nous pousse dans une direction. Mais j'avais vraiment au fond de moi quelque chose de pouvoir aider mon prochain aussi, une forme de lamentation face à des injustices. Et puis de souhait de pouvoir m'impliquer dans des actions concrètes pour lutter aussi un peu contre la pauvreté, contre les injustices dans le monde, dans l'idée aussi, avec ce métier-là, je pourrais aussi éventuellement travailler dans la mission, mais pas dans la mission forcément pour évangéliser, mais pour aider dans l'aide au développement. Ce qui a aussi fait que par la suite, on a pu aussi en famille aller une petite année aussi au Tchad pour faire du travail dans ce domaine-là. Donc voilà, c'était une écoute de mon cœur, j'ai envie de dire, sans avoir reçu une grande révélation. Avec Dieu, c'est souvent comme ça, hein, c'est comme ça, écouter son cœur. Sans avoir reçu une grande révélation, mais j'ai écouté mon cœur et je crois que c'est le métier qui m'a plu, que Dieu voulait aussi pour moi. J'ai commencé ensuite en 2006 mes activités professionnelles dans le canton de Fribourg. D'abord, j'ai fait un stage dans l'école d'agriculture de Grangeneuve, ceux qui connaissent, et ensuite j'ai travaillé au service de l'agriculture du canton. Et puis ça a aussi été cette période, voilà, qui a coïncidé avec mon départ de la maison. On parle de quitter père et mère, mais le verset dit après pour s'attacher à sa femme, hein, dans la Bible. Moi, j'ai quitté père et mère, mais pas tout de suite pour m'attacher à ma femme, pour vivre avant un moment seul. Et ça a été bien, ça m'a permis de développer aussi mon indépendance. J'ai aussi, ouais, en vivant seul un moment, j'ai aussi appris ce qui était de me lamenter, mes silences, mon écoute de la voix de Dieu. Je l'ai aussi développé dans cette période où j'étais plus à la maison. J'avais aussi quitté partiellement mes engagements pour m'engager dans une église à Fribourg. Donc c'était aussi des périodes pour moi-même, développer aussi ce chemin aussi vers la liberté que Dieu nous offre. Cinquième étape, mon mariage, un choix, en 2009 avec Catherine qui est aussi parmi nous, puis trois enfants qui sont nés. Oh! 1999, là j'ai 10 ans un peu, j'ai switché. On aurait eu soit les enfants avant le mariage, ou bien... 1999, excusez-moi. Et puis trois enfants qui sont nés après, donc Delia, qui est là aussi en 2001, Noah 2002, et puis Timéa, notre dernière, en 2011. La rencontre avec Catherine, donc ça a été une première fois durant une soirée de louange à Reconvilier en 2000. Non, mais là, donc, je change aussi, 1997. Je voulais pas retourner au XXe siècle, en fait. En 1997, donc, il y avait des soirées de louanges, des jeunesses en mission qui avaient mis en place dans différentes régions, comme cette Suisse romande, des soirées de louanges. Il y en avait une à Reconvilier, on s'était rencontrés la première fois. Et puis, on s'est mariés après, en 1999. Et puis là, j'ai aussi vécu un temps de silence, d'écoute de Dieu pour savoir si c'était le bon choix. Savoir si c'était le bon choix de me marier avec Catherine. Et puis là, je me souviens d'un temps particulier où j'étais vraiment en silence avec Dieu. Et puis, Dieu m'a plutôt renvoyé à ma responsabilité de futur mari en me faisant bien comprendre que je devais bien prendre soin de Catherine si je la mariais, car elle en aura besoin. Et je ne savais pas encore trop ce que ça voulait dire, mais comme je suis un peu une. Ouais, elle aura besoin que tu sois à côté d'elle. Ce ne sera pas un mariage où vous êtes chacun de votre côté, mais que tu prennes soin d'elle. Voilà, par la suite, j'ai aussi compris, je ne vais pas entrer forcément dans le témoignage maintenant de ce que Catherine a vécu, mais il y a eu des situations assez difficiles quand même qui aussi m'ont aussi fait. J'ai mieux compris un peu cet avertissement, c'était peut-être un bon terme, mais il m'a juste dit tu peux la marier, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu sois aussi prêt à bien prendre soin d'elle. Si vous voulez plus de détails sur notre façon que ça s'est passé, ça sera dans un cercle plus restreint et j'arrêterai ici. L'arrivée de nos trois enfants, avec une longue pause entre le deuxième enfant Noah et puis Timéa. Et là, j'ai mis, c'est des choix relatifs finalement. Hein. On essaie d'avoir des enfants, mais c'est finalement Dieu qui permet qu'on puisse en avoir, des enfants. C'est ce que je suis particulièrement ressenti pour Timéa, la dernière. J'ai même dit à mon psy que c'était un petit miracle, le dernier. Pourquoi? Parce que ben, on essayait d'avoir un troisième enfant, et puis ça n'allait pas. Donc on a déjà eu deux enfants, mais troisième, ça ne marchait pas, comme on dit. Donc, on a aussi fait un peu des investigations pour savoir pourquoi ça n'allait pas. Et puis, résultat des courses, l'endocrinologue, en me regardant bien dans les yeux, le diagnostic pour vous, vous êtes stérile, elle m'a dit. Waouh! J'avais déjà eu deux enfants, hein, donc c'était. Alors, je me posais des questions, j'étais pas encore, c'est venu après. Donc, je posais plein de questions. Et puis, peu de temps après, Catherine est tombée enceinte, donc c'était un peu un miracle aussi, par rapport au diagnostic médical. Alors je me suis toujours dit, est-ce que les deux premiers c'était déjà des miracles, et puis que je ne savais juste pas, ou bien... Parce que c'est vrai qu'on avait une petite crainte aussi avec mes frères. On avait eu à un moment donné, assez âgés, moi j'avais je pense 14-15 ans, on avait eu les oreillons. Hein? Alors on a tous peur, tout à coup, les oreillons peuvent, si c'est maltraité, déboucher sur une stérilité chez les hommes en particulier. Et puis, alors mon frère aîné avait déjà eu des enfants, moi je venais après lui, j'avais... Bon, on avait eu Delia et Noah, donc je me suis dit, mais après tout à coup, je me suis quand même posé des questions, si c'était encore un peu lié avec ça ou pas. Voilà, durant cette phase, hein, mariage, enfant, donc il y a aussi eu des phases de lamentation, justement la santé de Catherine, son dos en particulier, qui a finalement conduit à une opération du dos. Là, c'est en 2007, c'est juste, hein. Là, je suis juste en 2007. Le travail d'éducation, aussi Delia, qui a été diagnostiquée à 14 ans comme étant diabétique de type 1. Donc c'est aussi quelque chose, un peu quelque chose qui nous est arrivé comme ça dessus, qu'on a aussi dû gérer avec des questions, des pourquoi, et finalement, des phases de lamentation qui sont manifestées aussi, entre autres, là je vous donne aussi deux, trois exemples pour illustrer ça, et de silence aussi, bien dans ces temps, de silence seul, mais aussi en couple, silence et écoute. On a aussi, en couple, pris des temps de silence quand on vivait, et puis on essayait aussi régulièrement de prendre des temps d'écouter Dieu, des prières d'écoute en couple, pour aussi voir ce que Dieu veut nous dire, et puis aussi pour vivre ce qui nous arrive, et puis pour savoir aussi dans quelle direction aller dans notre vie de couple et de famille, et aussi dans ma vie personnelle. La sixième étape, qui est une étape un peu plus difficile pour moi en particulier, et voilà, je ne l'ai pas encore partagé beaucoup autour de moi, mais je souhaite aussi le partager ici, des angoisses dans les lieux fermés. Donc j'ai eu un moment très difficile, c'était en 2015, je pense que c'est un des moments les plus difficiles que j'ai vécu personnellement, de vivre tout à coup une angoisse dans un lieu où qui tombe dessus comme ça. Donc c'était en 2015. En rentrant, on a vécu une belle semaine de vacances en famille, en automne, c'était les vacances d'automne. Et on allait visiter les Salines de Baie, je ne sais pas si vous connaissez les Salines de Baie. Et puis, on est entré là-dedans, il y a ce petit train qui... Et tout à coup, je me suis senti angoissé, je ne savais pas ce qui se passait. Hein. Donc une angoisse vraiment, je ne savais pas si tout à coup il manquait de l'oxygène là-dedans, si moi j'étais mal, etc. Donc vraiment une période, ça dure à peu près 1 heure, je ne savais pas si j'allais... Vraiment l'angoisse profonde, hein, et je priais intérieurement, et puis je regardais les autres gens, je ne savais pas si tout le monde était un peu en manque d'oxygène ou pas, ou si c'était que moi, mais apparemment c'était que moi. Donc voilà, c'est venu très fortement, et finalement, bon, je suis sorti vivant, mais c'était presque des angoisses qui touchent au vivant, hein. Est-ce que je vais tenir le coup ou pas dans cette situation? Donc je ne comprenais pas trop ce qui se passait, après les temps qui ont suivi, j'ai un peu oublié, mais c'est revenu très fort une fois aussi quand je conduisais, au milieu d'un tunnel, paf, nouveau cette angoisse qui est venue, mais vraiment indescriptible. Du style, est-ce que je vais tenir le coup, etc. quoi. C'est assez difficilement descriptif. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent aussi ont peut-être déjà vécu ce type d'angoisse aussi. Donc, et puis voilà, alors là, des lamentations après, pourquoi c'est venu tout à coup, comme si ça s'installait un petit peu en moi. J'ai aussi décidé d'être suivi, voir ce qu'on pouvait faire aussi au niveau psychologique, donc pour faire face à ces angoisses. Et puis pour les gérer. Donc aujourd'hui, ça reste une fragilité, donc mais ça va. J'arrive vraiment à y faire face avec la présence de Dieu. Mais il y a un potentiel qui est là que je sais tout à coup, je peux avoir un peu une angoisse dans des lieux un peu fermés. Et puis, mais j'ai appris d'entre-temps avec l'aide de Dieu aussi à pouvoir y faire face. La tendance que j'avais, et puis peut-être des fois aussi liée à ma foi, c'est de dire on va prier pour que ça parte et que ça ne revienne plus, et puis qu'on soit libéré de ça. Mais Dieu m'a pas libéré totalement, mais il m'aide à y faire face. C'est plutôt ça. Il m'aide à y faire face quand je sens des fois un petit peu angoissé dans des lieux fermés. Mais j'arrive, je dirais vraiment, le vivre, ça me handicape plus dans ma vie. Alors qu'un temps, c'était quand même assez difficile. Ça m'arrivait des fois d'éviter des tunnels sur certaines routes pour pas devoir faire face à ce potentiel risque d'angoisse comme ça qui me prenait. Voilà, il y a aussi des thérapies qui existent. J'ai aussi appris avec, je dirais, avec l'aide de Dieu. des techniques acquises en thérapie, je peux aussi faire face aujourd'hui. Ce chemin m'a rendu aussi plus vulnérable, hein, tout à coup, et aussi du coup plus dépendant de Dieu. Il a aussi permis cette expérience douloureuse pour me faire comprendre, d'une part, que je devais vraiment lui laisser le contrôle de ma vie, parce qu'à un moment donné, c'est un peu le contrôle qui entre en jeu, on n'arrive plus à contrôler ce qui se passe. Et puis c'était un peu ça, je pense, j'avais un peu une tendance à peut-être un peu trop contrôler ma vie, tout est géré, tout est contrôlé. Et là, je ne pouvais juste plus, avec mes capacités de contrôle, faire face. Donc, je devais aussi lui laisser le contrôle de ma vie d'un côté, et d'autre part, je pouvais vraiment lui faire confiance et avoir foi en lui en toutes circonstances. La septième et dernière étape, ce qui est aussi un peu la conséquence de ça, je pense en partie, en 2017, j'ai fait qu'on appelle un bilan de compétences. Hein, j'avais 47 ans, un peu milieu de vie. On se demande est-ce qu'on va encore finir dans ce domaine où on est, ou on part dans autre chose. J'ai fait un bilan de compétences personnalisé avec quelqu'un très chouette. Et j'ai aussi fait avec lui un travail sur quelle est ma mission dans la vie. Alors si une fois on peut aussi en parler, ou c'est peut-être déjà fait, avant de dire voilà, je sais faire ça, je peux faire ça, et puis je vais encore faire ça, on a développé ensemble la mission de ma vie un peu. C'est un truc fort, mais on a fait un exercice pour dire mais qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ? Puis c'est quelque chose de tellement personnel que finalement je l'ai gardé pour moi, et puis il m'a dit gardez-le pour vous, ça c'est vraiment votre mission, c'est la mission de personne d'autre. Je l'ai partagé avec Catherine, mais c'est quelque chose que j'ai établi moi, qui est important pour moi, et ça me donne un petit peu une des bases aussi pour ma vie aujourd'hui, cette mission que j'avais développée dans ce bilan de compétences. Mais ça a aussi débouché sur ce changement d'orientation professionnelle dès 2019, donc ça c'était aussi un choix, mais je dirais un peu un choix relatif, et pour être aujourd'hui au service de l'Église, avec d'une part le ministère pastoral que j'exerce ici à Versoix et aussi d'autre part le service que j'exerce au niveau du réseau évangélique suisse. C'est des choix relatifs parce qu'il y a eu différents événements qui m'ont poussé aussi à réfléchir sur moi et puis aussi à la suite de ma vie professionnelle. J'ai vraiment choisi de changer d'orientation après avoir aussi compris dans mon cœur et aussi par diverses réflexions que c'était le chemin pour moi dans lequel je voulais entrer. Je peux dire que oui, j'ai obéi à Dieu, mais je pense aussi que cette obéissance, Dieu a d'abord dû bien me le faire comprendre. Il me faut des fois un peu de temps pour... je ne suis pas forcément la personne qui obéit tout de suite comme ça aveuglément. Il fallait que je trouve aussi un sens là derrière. Mais ça a pris à peu près 2 ans finalement jusqu'à ce que, entre le moment où j'ai fait le bilan de compétences, qui est arrivé au résultat finalement, ça j'ai oublié de dire, ce bilan de compétences est arrivé au résultat que le gars m'avait un peu dit comme ça. Et si un service pour l'Église ne serait pas ça qui rassemblerait finalement toutes vos attentes? Il m'a lancé ça un peu comme défi, que j'ai repris au bon, un peu d'abord surpris, mais sur lequel j'ai travaillé et qui a débouché finalement sur ce choix, effectivement, de quitter mon travail séculier et puis d'entrer dans un travail directement aussi au service de l'Église. Voilà, et puis ces étapes donc, de lamentation, de silence, d'écoute, je crois qu'elles resteront sur aussi longtemps qu'on vit sur terre, hein, au ciel. Les lamentations cesseront, je crois qu'on l'a lu aussi récemment. Et la voix de Dieu se fera live et claire. Ces chemins sont aussi liés, je dirais, à notre situation actuellement. Pour moi et aussi pour nous, ce qu'on a aussi vécu ces derniers jours avec la recherche d'une maison maintenant, ça, c'est aussi un exemple parfait, je dirais, qu'on peut aussi se plaindre quand ça ne va pas. On peut aussi, quand tout s'était arrêté à gland, on était aussi un peu découragés. On s'est plaint aussi, on l'a aussi dit à Dieu. Mais on a continué à lui faire confiance, on pensait aussi que le chemin ça ne remettait pas en question tout le chemin aussi qu'on avait commencé ici à Versoix, et qu'on allait aussi rester attaché à lui, que Dieu nous faisait confiance. J'ai bien aimé, c'était Tom Bloomer qui disait, quand on prie Dieu, ça veut dire qu'on va lui faire confiance. Puis quand il ne nous répond pas, ou qu'il nous répond différemment, c'est lui qui nous fait confiance. Il nous fait confiance qu'on peut rester attaché à lui, même que ce n'est pas allé comme on se l'imaginait. Quoi. Voilà, c'est mon histoire, c'est un exemple de la manière dont l'écoute de Dieu a influencé aussi mon action, puis m'a transformé. Et puis aujourd'hui, je suis et nous sommes en famille aussi, au début d'une nouvelle étape dans notre vie, et c'est vraiment un plaisir de partager cette nouvelle étape avec vous. Je peux dire que c'est un chemin de liberté par lequel j'ai passé, un chemin certes étroit, mais où je suis bien. Et ça me rappelait, on a une fois fait un week-end de jeunesse avec l'église où on était avant à Fribourg, avec les enfants, on parlait du chemin large, du chemin étroit. Et puis on avait fait un chant qui, le refrain disait « Chemin de la vie, chemin de l'amour, chemin large où je suis à l'étroit ». Et puis on s'imaginait un petit peu, je sais pas, vous êtes une autoroute avec plein de monde, alors c'est une route, elle est large, mais vous êtes à l'étroit dessus. Ou bien moi, je m'imaginais aussi, j'ai fait deux, trois fois le Morat à Fribourg, je sais pas, j'étais au départ du Morat à Fribourg, la route est assez large, on est tous comme ça. On attend le départ, ça dure pas très longtemps. Donc la route est large, il y a du monde, mais on se sent à l'étroit. Mais la deuxième partie du refrain, c'était aussi chemin de la vie, chemin de la mort, chemin étroit où je me sens bien. Et là, on peut s'imaginer un sentier de montagne qu'on a choisi. Il est pas large. Il est à la place peut-être pour une personne. On peut même s'imaginer qu'on est avec Jésus. Parfois, il est devant nous sur le sentier. Parfois, il est derrière nous. Parfois, il est à côté quand il est peut-être un petit peu plus large, le sentier. Parfois même, il peut nous porter si tout à coup on est aussi fatigué sur ce sentier. Voilà un peu la conclusion de ce message et ce témoignage. Je nous invite vraiment à agir et laisser Dieu nous transformer à travers ces différentes étapes, à l'image du Christ, en étant aussi à l'écoute de Dieu. Au besoin, lamentons-nous, et puis au préalable, et faisons aussi silence afin de pouvoir distinguer la voix de Dieu parmi toutes les voix audibles ou intérieures qui sont que nous entendons. Dieu nous laisse libre de nos choix. Et parce qu'il nous aime, il nous laisse libre, il ne nous contraint pas, mais il nous invite aussi à entrer dans ses choix, parce qu'il nous aime aussi, et que nous avons aussi choisi de répondre à son amour et de lui donner notre vie. Et puis il met devant nous, je l'ai déjà dit dans ce chant avant, mais je vais le reprendre aussi, c'est un verset pour moi aussi fort, il se trouve dans Deutéronome 30, 19 à 20. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors voilà, ça, pour moi, il nous laisse le choix. Finalement, on peut choisir. Mais il y a une invitation qui suit. Mais choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Laissons vraiment à Dieu les commandes et de l'action et de la transformation de nos vies. Et si les circonstances, ou des fois les non-choix, voilà, on n'a pas choisi certaines choses, on n'a pas choisi la famille au départ, il y a aussi d'autres choses qui nous sont des fois données, qui nous bousculent, on se dit « mais pourquoi ça m'arrive ?» Ça nous fait souffrir aussi parfois. Ben, prions, restons dans cette confiance que sa volonté bonne et parfaite s'accomplisse dans nos vies. Sa volonté bonne et parfaite s'accomplisse dans nos vies. Et puis j'aimerais, pour nous encourager aussi, à une promesse que Dieu a faite à Jérémie et qui est réellement le potentiel aussi à nous pour nous faire agir selon la volonté de Dieu et nous transformer. C'est ce verset dans Jérémie qui dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce ne sont pas des projets, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Jérémie 29, 11, et puis en parenthèse, c'est aussi le verset de notre mariage que nous avions.